Les nouveaux iPad 2023 ont donc accouché d'un troisième stylet Apple. La rumeur vantait des embouts interchangeables et magnétiques. Nous voilà avec un nouveau Pencil, certes USB-C, mais qui hérite des défauts des générations 1 et 2. Alors pourquoi ?
En fait, j'ai résumé ça d'un seul mot, qui est le mot stupide, parce que je comprends pas ce stylet. Et alors depuis qu'on en a parlé dans la quotidienne, j'ai même de nouveaux arguments en fait, parce que c'est incompréhensible ce truc. Et finalement, je trouve que ça remet même en cause la conception même du Pencil.
Dans un instant, retour sur cette annonce à minima et sur le vide intersidéral potentiel jusqu'au début 2024. C'est un drôle d'anniversaire pour Elon Musk, un an depuis son acquisition de ce réseau qu'on appelait Twitter. Aujourd'hui, X va mal, avec un chiffre d'affaires 2023 attendu en baisse d'un tiers et la menace de pénalités en Europe pour non-respect des obligations en matière de modération et de lutte contre la désinformation, particulièrement depuis les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre. Elon Musk qui aurait menacé d'interdire l'accès au réseau X en Europe avant de démentir. X qui teste le tout payant à 1 dollar par an dans deux premiers pays, la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté sur patreon.com/iWeek. Cette semaine, le reconditionné et l'expérience de Fabrice dans la nouvelle boutique YesYes à Toulouse. On va discuter de ses avantages et aussi peut-être des inconvénients. iWeek, la semaine Apple, le podcast hebdo de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple et son petit frère bien sûr, la quotidienne iWeek du lundi au vendredi. Ici Benjamin Vincent, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus en ce vendredi 20 octobre 2023. Il est 17h15 à Paris où je suis de retour, mais pas pour longtemps, puisque la semaine prochaine, c'est depuis Austin au Texas que je vous retrouverai et on en reparlera. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous qui entame donc son 158e numéro. Et bonjour aux survivants de la Team iWeek, ils ne sont plus que deux aujourd'hui avec moi. Je commence par Fabrice Neumann, le mentor en technologie. Salut Fabrice.
Salut mon capitaine, salut à tous. T'exagères quand même un petit peu, survivant. Enfin, on va dire qu'on s'en sort. Je voulais faire aussi une petite remarque, tu as parlé dans l'introduction de vide intersidéral. Heureusement donc que nous allons bientôt avoir For All Mankind saison 4 pour parler de vide intersidéral, mais de manière intéressante. Voilà, absolument. J'ai hâte.
Absolument, nous aussi on a hâte, dans 3 semaines à peine. Absolument. Désormais, puisque c'est pour le 10 novembre, et on te retrouve aussi sur commentçamarche.net et sur ton site quand même.
Et toujours pro-fusion-conseil.fr.
Voilà, et l'autre survivant du jour, à ta gauche pour ceux qui ont l'image, c'est Gilles Dounès, l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles.
Salut Benjamin et salut à chacun et chacune d'entre vous. Et par ailleurs, ancien rédacteur du livre iPod Backstage, co-rédacteur avec mon ami Marc Geoffroy.
Absolument, je le dis toujours et là pour une fois que je ne l'ai pas dit, c'est toi qui as pris le relais. C'est formidable, c'est ça, un esprit d'équipe. Alors cette semaine, on enregistre dans les conditions du direct. J'en appelle donc à votre plus grande tolérance si on bafouille. Pas de montage, post-prod minimal pour une mise en ligne aussi rapide que possible. Et bientôt, on l'espère, un enregistrement auquel vous pourrez peut-être accéder en nous soutenant sur Patreon, qui sait. Dans la deuxième partie de cet épisode, le bilan d'une année d'Elon Musk à la tête de l'ex-Twitter devenu X. Mais d'abord, le Pencil 3, beaucoup de bruit pour pas grand-chose et une maigre consolation pour ceux qui espéraient une keynote, sinon avec les premiers Mac M3, en tout cas avec les nouveaux iPads. Le Pencil 3 était à l'heure, pas les nouveaux iPads, en tout cas pas encore. L'espoir d'une keynote en octobre s'éloigne sérieusement. L'espoir d'une annonce des nouveaux iPad 10, iPad mini 7 et iPad Air 5, même par un simple communiqué de presse, s'éloigne aussi un petit peu. Ce mardi, vers 15h à Paris, nous n'avons eu que le nouveau Pencil, 3e génération, Pencil USB-C, c'est son nom officiel, à nous mettre sous la dent. Alors, On va revenir sur les absents du jour, ces iPads tant attendus, mais d'abord, faisons un sort à ce stylet. Je garde Fabrice pour la deuxième partie. D'abord, Gilles, quelle a été ta première réaction mardi à l'annonce de ce Pencil USB-C ?
Je me suis dit que chez Apple, on avait le pipeline paresseux et qu'on payait les retards à l'allumage et surtout les erreurs, les problèmes de fiabilité de l'iPhone 15, et que du coup, on avait décalé d'autant le lancement de ces nouveaux iPads et que le Pencil 3 se retrouvait un peu isolé et avec des difficultés pour le positionner dans la gamme, pour parler la novlangue market, je sais pas comment dire, novlangue marketing.
D'accord, oui. Roger.
Tac. Si tu veux faire plaisir pour ceux qui se rappellent Jacques Toubon, il faut dire mercatique.
C'est le mot que je cherchais. Merci Fabrice.
C'est ça. Donc Gilles, si je comprends bien, tu penses que les turbulences générées par le lancement de la gamme iPhone 15 font que Apple a décalé le lancement des nouveaux iPads. Tu penses que c'est lié ?
Oui, d'autant que c'est une technologie voisine. On est sur un iPhone on stéroïde. C'est ce qui avait été conseillé à Steve, de mettre la même chose sur une tablette quand il y avait eu le lancement de l'iPhone, qui serait le maître du monde. Apparemment, pas si le maître du monde que ça chez Apple, il faut revérifier ce qui n'a pas été. J'ai vu des rumeurs selon lesquelles l'écran aurait des soucis, il serait trop cher à produire. Je n'en sais rien, mais à mon avis, les deux choses, lancement mitigé de l'iPhone 15 et lancement raté raté de la nouvelle gamme iPad, sont liées. Ce sont les mêmes technologies.
Bon, on va revenir sur l'attente de ces iPads, les éventuels keynotes d'ici la fin de l'année. Je ne vais pas le mettre au pluriel, en fait, au singulier, ce serait déjà très bien. On va rester sur quand même l'annonce du mois, l'annonce de ce Pencil USB-C. Fabrice, toi, tu as le sang qui est devenu très très chaud.
Oui, un peu. C'est-à-dire que, en fait, j'ai résumé ça d'un seul mot, qui est le mot stupide, parce que je comprends pas ce stylet. Et alors, depuis qu'on en a parlé dans la quotidienne, j'ai même de nouveaux arguments, en fait, parce que c'est incompréhensible ce truc. Et finalement, je trouve que ça remet même en cause la conception même du Pencil, totalement. C'est-à-dire que, pour refaire un petit tour, ce qu'il y avait comme problème sur ce Pencil 3, c'est que c'est le premier, donc sur les trois, qui ne peut pas se charger directement sur l'iPad. Il a besoin d'un câble pour être chargé, éventuellement sur l'iPad. Mais je trouve déjà que ça, c'est un vrai problème. un des intérêts de la conception.
C'est surprenant, en tout cas.
Bah oui, c'était qu'on pouvait soit le brancher dans la prise Lightning, comme je disais, c'est pas très élégant, mais c'est efficace. L'autre qui se met en magnétique, le Pencil 2, donc est aimanté. Et quand on l'aimante sur les iPads compatibles, non seulement il se charge, et en plus, il se jumelle s'il y a besoin. Donc c'est pratique. Là, celui-là, il s'aimante aussi, mais pour se mettre en veille. Donc il fait l'inverse du Pencil 2. Donc si on est en plus dans une maison, dans un bureau où il y a plusieurs types d'iPad et plusieurs types de Pencil, on s'en sortira plus jamais. Parce que on ne saura pas si celui qu'on aimante, il se charge ou il se met en veille. Et si on ne l'aimante pas, le Pencil 3, il ne se met pas en veille, il va donc se vider. Et s'il est vide, on ne peut pas l'utiliser. Et si on n'a pas le câble, c'est foutu. Ça, c'est absolument incompréhensible. Et je trouve en plus, alors d'autant plus, que il y a une autre technologie de stylet, de Wacom, Wacom, de tablettes graphiques qui existent depuis des années.
Bien connues.
Et qui sont bien connues, qui sont formidables et qui n'ont pas besoin de batterie ou de piles. Et qui peuvent
selon les versions, parfaitement reconnaître la position, l'angle et la pression. Donc au final, globalement, je trouve que la gamme de l'Apple Pencil est un peu bizarre et pas très pratique, parce que c'est encore un truc qu'il faut charger, et donc encore plus difficilement, je trouve, alors, avec des guillemets là, avec le Pencil 3. Donc pour moi, c'est absolument incompréhensible, au-delà de la complexité de la gamme, encore plus renforcée avec celui-là qui donc n'a même pas les mêmes fonctions que les deux autres. Justement, en termes de reconnaissance de pression et de d'angle d'attaque.
Gilles, comment tu expliques, toi, que ce Pencil 3, on va l'appeler comme ça aussi, hein, pour par commodité, finalement fonctionne à l'inverse des deux précédents? Je simplifie, mais quand même, c'est un peu l'idée.
À mon avis, il n'est pas destiné aux mêmes personnes, ni au même iPad, plutôt sur de l'entrée de gamme, et donc sur l'iPad 10, ou je crois que le 9 n'est pas reconnu, je ne veux pas dire de bêtises.
C'est le seul avec lequel il ne marche pas, en fait. Et ce qui est dingue aussi, enfin, je veux dire, c'est juste la génération actuelle, quoi.
Oui, mais c'est la seule qui n'a pas encore l'USB-C, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais c'est le moins cher aussi, donc, du coup. Et donc le Pencil le moins cher n'est pas compatible avec l'iPad le moins cher. Génial.
Oui, mais et si Ellie était là, il te dirait qu'au moins les gens qui poussent la porte d'une boutique APR ou Apple peuvent repartir avec quelque chose pour moins de 100 euros, ce qui n'est plus le cas maintenant que le prix
du truc qui marche pas a
augmenté.
Un truc qui ne marche pas, ton iPad, c'est génial. Ah, t'es content d'avoir payé moins de 100 euros.
Il fonctionne.
Il y en a des gens qui vont se tromper, hein. Il y en a beaucoup. Hein.
Mais non, il fonctionne, mais il fait moins de choses. Je pense que c'est parce que l'iPad auquel il est destiné, l'iPad 10 fait moins de choses aussi. Et souviens-toi,
Il est où l'iPad 10, en fait ?
Non, mais justement, dans ton introduction, juste une petite remarque, l'iPad 10 existe, mais il est tellement mal né que tu l'as oublié.
C'est l'iPad 11.
C'est l'iPad 11 qu'on attend.
Tu as raison, j'ai oublié une unité.
Voilà. Mais sinon, reprenons, le Pencil 3 ne sert à rien, pardon.
Non, il sert pour faire le minimum syndical. Il est vraisemblablement destiné au marché de l'éducation et de ce qu'on appelle le K-12, c'est-à-dire le primaire, éventuellement le secondaire, mais surtout le primaire, même si c'est une bêtise à mon avis. Mais surtout, souvenez-vous, c'était l'iPad 10 ou iPad 11, dont le positionnement pour la recharge était en dépit du bon sens et ne reprenait pas la configuration de l'iPad Air avec, justement, comme tu l'as si bien décrit, Fabrice, la recharge et le magnétique sur le côté. Il fallait l'enchasser sur une prise USB en bas de l'iPad.
Pas USB.
Enfin, USB-C, si.
Si, il faut l'adaptateur, justement. Pour l'iPad 10, qui est compatible avec le Pencil 1 et donc qui est, lui, équipé d'une prise Lightning, il faut déjà un petit adaptateur câblé pour pouvoir le brancher sur la prise USB-C de l'iPad 10.
C'est ça. Non, mais Gilles parlait de l'iPad 11, c'est ça qui m'a induit en erreur. L'iPad 11, c'est celui qui n'est pas sorti encore, justement.
Non, je parlais de l'iPad 10.
Mais t'as dit 11 aussi.
Pardon, non, c'est une vraie pétrodière, cette gamme. Je vous rejoins là-dessus. J'essaie juste de comprendre, au lieu de me gausser et de me taper sur les clisses, comme vous faites depuis le début de cette émission.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conseillers dans les Apple Store et dans les APS, notamment chez MCS, les APS, qu'est-ce que je raconte, les APR, comme chez MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, et on fait une bise à Ellie, vont avoir du boulot pour expliquer la différence. Et d'ailleurs, Fabrice, tu as vu ce magnifique tableau de comparaison sur le site d'Apple entre les trois générations de Pencil. On dirait presque une caricature.
Mais oui, parce que donc pour le décrire un peu, il y a donc en haut les trois générations de Pencil. C'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire c'est d'abord le Pencil 2, ensuite le Pencil 3 et ensuite le Pencil 1.
C'est dingue.
C'est, ouais. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'après la colonne précédente où qui regroupe toutes les fonctions possibles des pencils, il n'y a que le pencil 2 qui coche toutes les cases, c'est-à-dire la précision, la latence faible, la détection de l'angle d'attaque, la détection de la pression, etc.
C'est le plus cher.
C'est pour le ça. Plus cher, mais c'est le 2. Donc, le
il 3. Il n'est pas USB-C.
Souvent, on parle, quand on parle des processeurs, on avait déjà un peu parlé de ça au moment de la sortie des processeurs M2, pour faire une petite incise. On s'est dit, bon, alors, il va y avoir un problème parce que le processeur M2 sera mieux que le plus puissant que le M1, par définition, mais il ne sera pas aussi puissant que le M1 Pro ou M1 Max, ou, etc. Donc déjà, il y a une petite difficulté, mais en gros, parce que on a tous dans la tête quand même que 3, c'est mieux que 2. Sauf que là, non. 3, c'est pas mieux que 2.
Alors,
c'est même l'inverse.
Ouais. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire un tout petit peu de pédagogie à notre tour, expliquer pour quel iPad est destiné chacun des trois pencils et quelles sont les fonctions qu'il a ou qu'il n'a pas. Est-ce que tu veux essayer, Fabrice?
T'as 2 heures? Non, alors. Donc, je vais essayer. Et puis, alors, bon, il y a quelques petites choses qu'on a sous les yeux. Mais même en lisant ça, moi, ça me tue, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc,
Et on veut les prix aussi.
Le Pencil 2, qui est à 149 euros en France, il a donc toutes les fonctions qu'on va essayer de décrire tout à l'heure. Il fonctionne sur tous les iPads sauf le 9 et le 10.
Déjà.
D'accord ? Déjà, ça va. Bon. Ensuite, on va faire dans le désordre. On rappelle le Pencil 1, qui est toujours vendu à 119 euros, ce qui est quand même fou en plus, parce que c'est le Pencil qui a... Il a quel âge ? Il a 8 ans ? Quelque chose comme ça.
Ouais, il est vieux.
Dans la bonne tradition d'Apple, on ne change pas
le prix
qui gagne, mais c'est le prix de départ. Même si c'est c'est pas comme... Alors, pourtant, les iPhones, hein, on les garde au catalogue et on baisse le prix, mais pour les pencils, non. Donc pour 119 euros, ça marche sur l'iPad 10 et précédents, tous les iPads qui étaient compatibles avec un pencil, mais pas avec l'iPad mini, l'iPad Air ou les iPad Pro. Bon. Et voilà qu'arrive le Pencil 3 à 95 euros. D'ailleurs, donc, nos excuses à ceux qui nous ont écoutés dans la quotidienne quand on a parlé de l'arrivée du Pencil 3, on a annoncé 79 et on s'est planté parce qu'on a fait
les dollars.
Du dollar en euros
américain,
et
hors taxe.
Voilà. Alors, ce qui, en plus, conforte ce que je vais dire juste après à propos de ça. Donc, 95 euros, il fonctionne en gros avec tous les iPads, sauf l'iPad 9, qui est la super entrée de gamme qui est encore au catalogue et qui disparaîtra, l'iPad 9, dès que l'iPad 11 sera sorti, donc. Et alors, c'est un peu moins cher, donc il y a un petit peu moins de fonctions, et notamment il n'y a pas la sensibilité à la pression sur le Pencil 2, et il n'y a pas non plus la reconnaissance de la double tape sur près de la mine pour pouvoir changer d'outil, par exemple pour activer la gomme et puis ensuite revenir à l'outil crayon pour dessiner. Et alors, ça, c'est rigolo, on ne peut pas non plus avoir de gravure à son nom pour mettre une initiale ou quelque chose qui est gratuite avec le Pencil 2, qui est plus cher, mais sur le Pencil 3, le Pencil 1, on ne peut pas avoir la gravure gratuite. Voilà, ça, c'est la petite chose en plus. Bon. Enfin, j'engage aussi nos auditeurs à aller regarder et lire le communiqué de presse d'Apple, parce qu'il y a un paragraphe qui est formidable, parce que comme en plus à chaque fois ils sont obligés de dire la génération du Pencil et de l'iPad, donc t'as des phrases où c'est iPad 9, iPad entre parenthèses 9e génération et iPad entre parenthèses 10e génération incompatible avec le Pencil entre parenthèses quelle génération, etc. Enfin, c'est à mourir de rire. On dirait un sketch, quoi, franchement.
Bon, un des points qu'on peut retenir, c'est que si vous avez un iPad 9, donc la génération d'il y a un an, le seul Pencil compatible, c'est le Pencil 1.
Et non.
Eh ben si.
Eh bien, chez Apple, oui, mais c'est là où je voulais en venir.
Oui, mais chez Apple, Chez Apple, ouais, ouais, bien ouais. sûr.
Mais n'oublions filou, pas que espèce sur, de le, site, sur la, le site Apple de vente en ligne, il y a en vente le crayon qui s'appelle crayon de Logitech, qui est un, donc un stylet pour l'iPad qui reprend la technologie d'Apple pour faire un, pour faire un stylet, qui justement comme, est très proche en termes de fonction de, du Pencil 3, c'est-à-dire qu'il n'a pas de reconnaissance de pression, me semble-t-il. Il faut le recharger avec une prise USB. Alors, il existe déjà en, en version USB-C, avec la, en plus la prise mieux placée, à mon sens. Il est aplati, donc il ne roule pas sur la table, et il coûte 80 euros. Voilà. Donc tu mets le Pencil 3 en face de ce truc-là et choisis ton camp camarade, c'est facile. Il faut prendre celui de Logitech, c'est évident.
Pourquoi est-ce qu'Apple a sorti ce Pencil USB-là alors ?
Moi j'ai une réponse. C'est pas, ils n'ont pas spécialement envie que Fabrice et Benjamin fassent des gorges chaudes, ni envie de tendre des verges pour se faire fouetter. C'est qu'il y avait vraisemblablement une demande ou un problème avec l'utilisation des 1 et 2 avec un certain, une, un certain type de population et d'utilisateurs. Et donc, suivez mon regard, je pense qu'il destine ça plutôt au monde de l'éducation et de l'apprentissage de, la, de l'écriture, sachant qu'on revient beaucoup à l'écriture cursive et que le clavier a de plus en plus mauvaise presse dans la population générale et chez les scientifiques d'abord, dans la population générale ensuite et du coup dans la communauté éducative et des gens qui signent l'échec pour acheter du matériel.
Oui mais Gilles, dans le monde de l'éducation, il y en a plein qui ont acheté des iPads neufs. C'est l'iPad d'il y a un an.
Oui, mais c'est le problème de la générale de la high-tech où une génération chasse l'autre. Et depuis le, depuis le premier Mac.
Ça. Non, mais Gilles, c'est des conneries.
Non, pas, depuis le premier Mac.
Normal. On, c'est pas normal qu'un Pencil qui sort aujourd'hui ne soit pas compatible avec l'iPad d'il y a un an. Je suis désolé. Tu peux me dire ce que tu veux.
Mais j'ai rien à répondre à ça. Je pense que cet iPad neuf ne devrait pas rester au catalogue et n'aurait pas dû rester au catalogue l'année dernière. Donc voilà, normalement, il aurait dû dégager.
Ouais.
Alors c'est là le hiatus.
Est-ce que le problème, c'est pas aussi que le Pencil 1 est toujours là ? Parce que du coup, ça fait trop de Pencil, en fait.
Oui, parce que du coup la gamme est pas très facile à lire. Ça n'enlève rien à mon sens à la stupidité du Pencil 3, parce que tu regardes la gamme. Alors t'enlèves sur le petit tableau qu'on peut tous aller voir hein, sur dans le communiqué de presse d'Apple sur l'annonce. T'enlèves donc la colonne de droite et tu regardes. Et t'as toujours un Pencil, donc le 3, auquel il manque des fonctions. Qui est USB-C soit, mais avec un truc en plus assez bizarrement placé. La prise USB-C pour le charger, le jumeler, c'est un peu bizarrement placé à mon sens. Enfin, c'est y a rien qui va quand même. Même si ce serait plus simple à lire, j'imagine, comme tableau. Mais c'est quand même étonnant, quoi.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a toujours pas de Pencil USB-C qui permettent de dessiner.
Oh bah parce que tu veux dire dessiner, il faut avoir la pression par exemple.
Ah bah oui, sinon tu peux pas dessiner.
Oui.
Tu
peux. Oui, enfin.
C'est indispensable. Non, alors,
tu peux pas dessiner. Il y a des artistes qui dessinent au stylo bic, hein. Donc.
Dès que tu veux faire un peu de peinture, du fusain, des trucs comme ça, enfin tu peux pas.
Oui, non, j'entends bien. Non, bien sûr, oui. Oh, là, je sais pas, je suis pas un artiste moi-même, ouais. Donc j'ai pas d'avis sur le sujet.
Moi non plus, mais.
Mais en tout cas, j'entends ce que tu dis.
S'il n'y a pas la pression, s'il y a pas la sensibilité à la pression, c'est surtout pour prendre des notes. C'est ça que ça veut dire.
Oui,
c'est bien ce que tu dis.
Mais ça coûte quand même. Bah oui, mais c'est bien ce que tu dis, Gilles. Mais ça coûte 100 balles. Alors pour ça coûte encore 100 balles quand même. Hein.
Le à mon avis, le problème c'est pas tant la technologie du Pencil 3, c'est que qui n'en fait pas, qui À mon avis, le problème, c'est l'iPad 9 qui n'en fait pas assez dans la technologie rudimentaire qui déjà était mal née. Comme vous l'avez dit pour l'iPad 10, je pense que c'est le 9 qui n'en faisait pas assez. Et du coup, le Pencil 3 se retrouve un peu en porte-à-faux. Et puis, souvenez-vous de la rumeur selon laquelle ce Pencil devait être accompagné d'embouts différents, capables de rendre différents appuis, différentes pressions et différents rendus. Alors, est-ce que c'est de ce côté-là qu'il y a eu également des problèmes de mise au point et de fiabilité? J'en sais rien, mais il y a forcément un souci quelque part. Ils n'ont pas fait un raté pour faire un raté. Apple, ils aiment vendre les produits, ils n'aiment pas qu'on se moque... Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux, donc il y a un souci.
Alors, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas trois embouts différents dans la boîte du Pencil USB-C? Parce que ça pourrait au moins permettre d'avoir trois largeurs de traits différentes, sans être sensible à la pression.
Je crois pas que
personne n'a vu la boîte, hein, parce qu'il sort début novembre.
Non, pas encore, non, oui, ouais. Donc on verra bien. Mais,
peut-être qu'il
y a des embouts qui sont faits par d'autres entreprises, mais je crois pas qu'Apple en fasse d'autres, de toute façon.
Ouais. Il l'aurait claironné dans le communiqué de presse. Ouais. Il ferait pas un addendum à l'annonce qui est déjà problématique.
Bon, indépendamment de la non-qualité de ce Pencil USB-C, je vous pose la question subsidiaire. Les prochains iPads, donc 11, iPad mini 7 et iPad Air 5, vous les voyez arriver bientôt ou l'année prochaine? Ou comment vous voyez les choses se passer, Fabrice?
Je pense à deux choses, en fait. C'est que il semble quand même que ça bruisse. On a entendu hein, de ci, de là, que les fabricants d'accessoires pour iPad commençaient à changer aussi leur gamme avec certains accessoires, notamment pour l'iPad 9 qui n'était plus au catalogue ou était très difficile à trouver. Donc je pense que les tablettes elles-mêmes sont quasiment prêtes. Je pense aussi que je serais pas étonné qu'il y ait une annonce d'iPad mini, éventuellement d'iPad 11 par communiqué de presse, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire un événement pour ça. Et avant le début de l'année qui va être réservé aux Vision Pro, il faudrait pas qu'on parle d'autre chose si on se met dans les chaussures d'Apple, pardon, pour faire un anglicisme.
Ah, c'est intéressant.
Il y a le Vision Pro quoi l'année prochaine. L'année prochaine pour Apple, c'est le Vision Pro et le processeur M3. C'est pas les iPads quoi.
Ouais. Alors Gilles, est-ce que tu es d'accord avec Fabrice? Parce que c'est vrai qu'il y a trois gros chantiers là sur le feu. Il y a les premiers Mac M3 et notamment le renouvellement de l'iMac. Il y a ces nouveaux iPads et puis il y a le Vision Pro. Comment tu vois la chronologie se faire entre ces trois gros morceaux?
Oui, je suis bien d'accord avec Fabrice. Il faut absolument que les iPads sortent, fût-ce en catimini, s'ils doivent sortir, s'ils sont prêts. Et puis, il faut le Vision Pro est quelque chose que Apple fait monter dans sa communication régulière. Donc, il faut que l'espace médiatique soit prêt, soit libre. Et puis, il y a le M3 qui va arriver ensuite au début du mois de janvier ou peut-être au mois de février, comme ça a pu être le cas précédemment pour le M2, si ma mémoire est bonne. Hein.
Mais attends, t'es fin janvier avec les Mac M3, et pour toi, Apple aura déjà lancé le Vision Pro?
Oui. Au moins fin décembre ou début janvier, Apple aura lancé, il était promis pour la fin de l'année, le Vision Pro.
Non,
encore une fois,
ils ont toujours dit début d'année prochaine. Ils n'ont jamais dit 2023.
Début d'année prochaine. Alors à ce moment-là, il y aurait s'il n'est pas prêt, soit l'un soit l'autre, il y aurait 2 à 3 mois de différence. Le M3, s'il y a des difficultés de développement, au final, sur le Vision Pro, et puis en début de trimestre éventuellement, pour respecter le calendrier, le M3 avec les processeurs, les MacBook Pro et puis éventuellement un iMac 24.
Je vais tout avouer, j'ai rien compris à ta chronologie. Tu peux me le refaire 1, 2, 3 dans l'ordre?
D'abord, le M3 avec un iMac 24 et les MacBook Pro.
Ça, ce serait quand ?
Ensuite, au début, fin janvier, ouais. Et au mois de mars, fin janvier, début février, comme l'année dernière, et ouais. Puis le Vision Pro, plutôt vers la fin du trimestre, parce que c'est trop gros, il y aura forcément des problèmes de dernière minute. Je dis pas qu'il n'y en aura pas sur le M3, mais c'est vraiment le truc à ne pas rater pour Apple.
Donc Gilles, si je comprends bien par déduction, ça veut dire qu'Apple lancerait les iPads avant la fin de l'année, un peu en catimini, c'est ça que tu veux dire ?
C'est bien ça.
Ouais. Quelque chose à ajouter, mon cher Fabrice ?
Rappeler que je suis toujours très content de ma tablette Kindle Scribe avec un stylet qu'on peut remplacer pour 30€ et qui est formidable. Le stylet premium qui en vaut 50, il a un bouton, il a une gomme à l'autre bout et il n'a pas besoin d'être chargé. Voilà, rappelez-vous que ça aussi, ça existe.
Bon, je te pose quand même la question à propos des premiers Mac M3. Quel est ton dernier feeling sur le sujet ? Et en termes de calendrier, tu placerais ça quand ?
Moi, je mettrais ça un peu plus tard. Je pense que le début d'année va vraiment être réservé au Vision Pro, qui est donc normalement équipé du M2, lui, avec donc des processeurs qui sont maîtrisés.
Toi, tu le mets en premier en 2024.
Ouais, je pense que c'est vraiment avec ça qu'ils vont ouvrir le bal. Et puis au printemps, peut-être mars, les premiers Mac M3. Parce qu'il ne faut pas oublier, a priori, le M3, c'est aussi le processeur qui serait le premier processeur pour Mac qui serait gravé en 3 nanomètres. Il me semble que la production, même si le marché du smartphone est un petit peu en baisse, il n'est pas essoufflé non plus. Et donc, pour l'instant, le 3 nanomètres, c'est réservé à la 17 Pro de l'iPhone 15 Pro et Pro Max. Et ils ont sûrement commencé à produire des M3, je dis bien sûr, mais pour monter en puissance. Et en plus, si c'est à mettre dans un iMac qui est une machine, c'est une machine de bureau qui ne se vend pas forcément par camion, mais en même temps, c'est quand même une machine assez populaire. Donc, il faut pouvoir suivre la cadence, quoi. Voilà. Donc, je pense, moi, plutôt Vision Pro et les M3 plutôt au mars. Ouais.
Bon, et donc les iPads.
J'ai une bêtise. Je pense du M2. Pour l'iMac 24, je suis désolé, hein, mais
ok.
Justement, parce que le M2 et ce qu'on avait dit, je ne sais plus quelle quotidienne, les M2 sont plus faciles à produire et la technologie est maîtrisée, tandis que le M3 sur le ce que disait Fabrice, hein, les dailles sont beaucoup plus petites sur les puces d'iPhone, et donc on peut se permettre d'avoir davantage de problèmes. Donc le M3 serait pour le MacBook Pro et puis c'est tout, éventuellement un Mac Studio.
Ouais, bon, on serait quand même déçu d'avoir un iMac seulement M2 un peu en fin de course, alors que ça fait tellement longtemps qu'on attend une mise à jour de l'iMac, hein, quand même.
C'est exact.
Ouais. Bon, et donc les iPads, hein, toi aussi, catimini.
Oui, c'est ce que je disais au début.
D'ici fin novembre, catimini, quoi, c'est ça ?
Fin novembre, c'est même un peu tard s'ils veulent faire un peu de vente pour Noël, comme on dit.
Bah oui, ouais.
Mais peut-être, en tout cas, d'ici mi-novembre, on va dire qu'il y aurait, 2-3 communiqués de presse pour dire des nouveaux modèles.
Voilà, bon, ça vous fait moins d'un mois à attendre si tout va bien. Et si comme nous, alors, l'actu Apple, cette actu, hein, dont on vous parle, et celle de l'écosystème vous passionne, je vous rappelle qu'on vous propose gratuitement un autre podcast. C'est le compagnon indissociable de la semaine Apple, la quotidienne iWeek. Abonnez-vous et suivez la quotidienne iWeek. C'est sur toutes les grandes plateformes de podcast. Dans un instant, on va... célébrer, le mot est un peu fort, mais en tout cas, on va faire le bilan d'un an d'Elon Musk à la tête de ce réseau qu'on appelait autrefois Twitter. À tout de suite. quittera pas l'Europe quand Elon Musk dément une rumeur qu'il a lui-même peut-être souhaité faire fuiter, celle d'une menace d'interdire l'accès au réseau X, ex-Twitter, en Europe, faute de pouvoir s'adapter à la nouvelle réglementation, le fameux Digital Service Act, entré en vigueur le 25 août, et qui met la pression sur les services en matière de modération et de lutte contre la désinformation. Donne énormément modifié, évidemment, depuis le 7 octobre et les attentats du Hamas en Israël. Le 10, Elon Musk a reçu une lettre de Thierry Breton en forme de rappel à l'ordre et aussi d'avertissement. X risque une pénalité égale à 6% du chiffre d'affaires. Celui-ci est estimé par Elon Musk lui-même à 3 milliards de dollars en 2023, entre parenthèses en recul d'un tiers sur un an. Ça ferait 180 millions de dollars de pénalité à payer. Alors cette menace, coup de bluff ou véritable coup de semonce avant un retrait du marché européen, je posais la question à François dans la quotidienne de ce vendredi. Je vous la pose à vous, mes amis. Est-ce que vous pensez que Elon Musk est capable de dire « Bon, bah, puisque c'est comme ça, on s'en va. »
Alors, comment répondre à ça ? J'ai l'impression que... j'ai envie de dire que Elon Musk est capable de tout, mais que, heureusement, il a aussi des gens autour de lui et qu'il a souvent lui-même... nommé. Et donc, par exemple, il a quand même nommé une nouvelle PDG, Linda Iaccarino, à la tête de Twitter. Donc, j'ose espérer qu'il n'est pas tout seul pour prendre des décisions.
Tu le crois vraiment?
En tout cas, elle a quand même une présence publique. Donc, elle a, si jamais elle a été, par exemple, c'est elle qui a été interviewée à la conférence, je sais plus comment ça s'appelle, Recode ou quelque chose comme ça, il y a une semaine ou deux, c'était elle la présence Twitter X sur scène, c'était pas Elon Musk. Donc si jamais il se fout sur la gueule à ce moment-là, ça va être public, ça va se savoir. Après, je trouve que la démarche d'Elon Musk potentielle de dire si on fait pas comme je veux, je quitte l'Europe, qu'il a démenti. Alors finalement, on ne sait pas, comme tu disais, si c'est lui qui a d'abord lancé la rumeur pour la démentir après. Mais ça ressemble aussi à ce qu'on fait les gens comme Meta et Signal. En Angleterre, quand le gouvernement et le Parlement anglais ont avancé un peu plus que les autres en France sur la réglementation du chiffrement des messageries, en insistant sur le fait que nous, gouvernement, disait-il, nous voulons avoir une porte dérobée pour pouvoir déchiffrer les messages, pour pouvoir lire et lutter contre le terrorisme. Ce qui est une bêtise absolue. Et donc, les gens qui font ces messageries, donc il y a Facebook dedans, enfin Meta avec WhatsApp, il y a Signal, il y a Telegram, ils ont dit, si c'est comme ça en Angleterre, on s'en va. Et du coup, le gouvernement a reculé. Donc, je pense qu'on assiste... de toute façon, a un bras de fer entre Elon Musk et Thierry Breton, notamment, qui arrive avec sa bannière de Digital Services Act, comme tu as dit. Nous, on vous demande de faire attention à ce qui est diffusé sur vos réseaux. Il n'y a pas que Twitter, d'ailleurs. Vous ne le faites pas, donc on va avoiner, parce que c'est écrit dans la loi.
Ben oui. Gilles, est-ce que tu penses que c'est un coup de bluff ou est-ce que tu penses que Elon Musk est sérieux quand il... il dit qu'il l'a pas dit, mais bon, il l'a peut-être dit quand même à des gens qui l'ont répété, quand il dit qu'il va fermer Twitter en Europe.
Je rejoins Fabrice, sauf que le gouvernement a reculé parce que la sottise, c'était de le gouvernement anglais. Alors, reculer quand Meta et l'autre réseau social a menacé de quitter le territoire britannique parce que c'est le territoire britannique et que c'était une grosse sottise. C'était la porte ouverte. Imaginons que le National Front prenne le pouvoir en Angleterre. Au Royaume-Uni, et on a une dictature. On ne sait pas ce que les trolls de Poutine peuvent faire sur les élections dans telle ou telle démocratie. Donc, ça serait ouvrir la porte à n'importe quel pouvoir dictatorial et pour le coup omnipotent. Là, on n'est pas dans cette configuration-là. On a un marché potentiellement de 500 millions de consommateurs et puis un chiffre d'affaires énorme. Tu l'as rappelé, pour X, pour
en baisse,
Twitter. En baisse, mais quand
net
même.
Baisse.
En baisse. Pourquoi ? À cause des sottises d'Elon Musk qui pense à voix haute et qui pense tout un tas de. Qui sort tout un tas de sottises et les gens s'en vont. Les gens, on est sur une économie de l'attention, une économie du clic et les gens s'en vont. Les gens cliquent de moins en moins, les gens scrollent de moins en moins et vont voir soit arrêtent ou se désintoxiquent des réseaux sociaux, soit vont essayer un certain nombre d'autres plateformes comme
Mastodon,
SkyBlue et c'est pour ça que le chiffre d'affaires baisse parce qu'il y a moins de d'affichage de pubs tout simplement et moins d'annonceurs.
Ouais, c'est vrai. Alors chiffre d'affaires potentiellement en baisse de 30% environ hein, d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est l'estimation. C'était l'estimation d'Elon Musk cet été. Tu parlais d'un bras de fer, Fabrice, avec Thierry Breton. Est-ce que effectivement Elon Musk serait prêt à aller jusqu'au bout parce que finalement Thierry Breton lui son objectif c'est pas forcément que Twitter enfin l'ex-Twitter continue d'exister en Europe s'il respecte pas les règles et...
Oui, bien sûr. Rappelons juste en deux, trois mots, ce que demande le Digital Services Act, c'est que les réseaux sociaux donc, respectent les lois de chacun des pays et les lois européennes en particulier sur la diffusion de contenus dommageables, de fake news. Mais il demande pas tant le fait de s'assurer que ces contenus ne soient pas diffusés, mais de mettre les moyens. C'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, comme on dit en droit. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on a mis en place les moyens pour essayer de lutter contre la diffusion des contenus qui sont considérés comme illégaux ou malvenus sur le réseau. C'est relativement bien défini. Le problème, c'est un des problèmes.
Ouais. Ce qui suppose de retirer les messages quand ils sont signalés et qu'ils tombent sous le coup de la loi, ils sont dans l'illégalité.
Ouais, tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas, a priori, et encore moins depuis le 7 octobre.
Voilà. Il y a une obligation de résultat. Il faut que dans les 24 heures, les contenus litigieux ont dégagé. Or, ils ne peuvent pas dégager parce que 80% des gens qui s'occupaient de ça, eux-mêmes ont été dégagés. Donc, il manque la main-d'œuvre pour les petites mains pour évaluer. Les algorithmes ne suffisent pas. Et puis, Musk a voulu mettre en place un système d'autorégulation, mais ça fonctionne pas non plus.
Communautaire.
Avec les internautes qui, je sais pas comment les appeler, les X-Men et X-Women qui signalaient.
Non mais c'est la même population qui met les contenus les fake news en ligne de lutter contre.
Non mais finalement c'est une sorte d'autorégulation un peu à la Wikipédia.
C'est pas pareil parce que là on est l'autorégulation des mafieux qui veulent essayer de moraliser à qui on demande de moraliser le marché. Ça c'est pas possible, ça fonctionne pas. Et puis, là, ils ont mis un système où les gens, là je crie au génie, c'est les gens qui payent, qui mettent en ligne l'immense majorité, 75% des contenus litigieux, ce qui fait que les gens payent pour mettre une pastille, attention, danger. Là, je trouve que Elon Musk a fait très fort, non, c'est l'ironie, je vous rassure.
Oui. Alors, je t'ai interrompu, Fabrice, pardon.
Moi-même. C'est juste qu'il y a deux petites choses. Il me semble qu'il y a les deux. Il y a l'obligation de moyens, l'obligation de résultats, mais dans deux modes différents. Il y a l'obligation de moyens pour filtrer, pour mettre en place des moyens pour éviter que les contenus soient diffusés. Et si jamais les contenus sont diffusés et qu'il y a une demande, alors il y a une obligation de résultats pour dire on vous demande d'enlever ça et il faut que ce soit enlevé dans un temps défini. Et pour aussi, pour pas qu'on se trompe sur la différence entre Twitter et Wikipédia, c'est que oui, Wikipédia, c'est du contenu qui est autogénéré par les utilisateurs, mais les règles mises en place par Wikipédia pour filtrer autant que possible ça, sont autrement plus intéressantes, intelligentes et efficaces que les règles qui n'existent finalement quand même quasiment plus sur Twitter. C'est-à-dire que quand on crée du contenu sur Wikipédia, non seulement il faut avoir un compte, mais l'adresse IP est pistée et il y a tout un tas d'autres trucs. Et il y a une équipe de Wikipédia qui filtre tout ça, conséquente, pour éviter les débordements. Et comme le rappelait très justement Gilles, il y a 80% des gens qui formaient l'équipe de filtrage, je ne me rappelle plus le nom exact officiel, qui a été viré par Elon Musk à son arrivée. Donc il ne peut pas mettre en place des techniques efficaces de modération s'il n'y a plus personne pour modérer. Voilà, c'est compliqué quand même.
Ouais. Alors, Elon Musk le disait il y a quelques semaines avant le début du conflit au Moyen-Orient, le seul moyen de lutter contre, alors, au moins les bots, hein, et il y a d'autres sources de désinformation, mais ce serait selon lui de passer au tout payant et donc de faire en sorte que chaque utilisateur qui poste ou qui retweet, pardon, retweet, le mot n'est plus accepté, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, soit lié à un compte payant, même pour un montant symbolique, qui consiste à ce qu'il fournisse une carte de crédit qui, quelque part, est un moyen d'être sûr qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, Twitter X vient de lancer cette expérimentation dans deux pays, les Philippines et la Nouvelle-Zélande, avec un forfait à 1$ par an. Ça, c'est depuis 24 ou 48 heures. Et dans le même temps, on se rend compte que les trois quarts des fausses infos les plus virales sur la guerre entre le Hamas et Israël proviennent d'utilisateurs vérifiés. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est juste un coup d'épée dans l'eau ? Est-ce que Elon Musk y croit lui-même à sa tentative de tout payant ?
Il paye 8$ par mois, ces gens-là.
Non. C'est des comptes à 1$ par an.
Ah non, pour les comptes vérifiés,
c'est
8$ par mois.
Oui, les comptes vérifiés.
C'est qu'ils balancent 75% des fake news, paye 8$ par mois. Donc le prix n'est pas un obstacle.
D'accord, mais l'idée, c'est que ça permettait d'authentifier des utilisateurs et donc, en cas de débordement, aussi de pouvoir dire vous arrêtez.
Le nombre de cartes bleues qui sont en vente sur le Darknet, ça va être la fête du slip pour toutes ces fermes à trolls. En plus, les gens qui vraiment ont intérêt à déstabiliser sur des choses comme le conflit israélo-palestinien, ce sont des grosses entités comme l'Iran, la Russie, éventuellement sur d'autres sujets, la Corée du Nord, les crypto-monnaies et les faux comptes, ils savent extrêmement faire, ils ont des fermatrolls de 100 000, 200 000, 500 000. Vraiment, encore une fois, le prix n'est pas un obstacle pour ces gens-là. Et puis, ça ne va pas être une carte bleue, vu la difficulté que ça va être pour faire payer l'épée de moumoute qui s'offre des comptes de secours pour faire le persécuter, il va très vite se rabattre sur les crypto-monnaies. Je vous fiche mon billet.
Fabrice, est-ce que le problème, c'est pas la volonté réelle d'Elon Musk, finalement, d'y arriver ?
Alors, je pense qu'il est permis d'en douter, effectivement. Cela dit, je pense qu'on ne parle pas exactement de la même chose quand on parle des comptes vérifiés et du 1$ par an. Le fait que dans le conflit israélo-Hamas, je préfère dire israélo-Hamas que israélo-palestinien d'ailleurs, si je peux me permettre, que ce soit les fake news soient véhiculés par les comptes vérifiés, ça prouve justement que les comptes ne sont pas vérifiés et que Twitter ne joue pas son rôle de filtrage sur les comptes payants ou pas. En revanche, Le fait d'avoir un abonnement à $1 par an, donc c'est lié à un numéro de carte bancaire. J'ai la raison de dire que du coup, ça va être la fête de ce qu'il a dit pour trouver des numéros de carte bancaire. Mais un des potentiels moyens positifs de cette action-là, c'est que on peut déjà limiter le nombre de comptes que l'on peut ouvrir avec le même numéro de carte bancaire.
C'est donc vrai. Ça,
on va limiter à 5 ou 10 par exemple, et ensuite si ce sont visiblement des comptes qui sont des bots, c'est-à-dire des robots, hein, pour les francophones qui nous écoutent, on parle pas de BOTTES mais de BOT, donc des robots, parce que quand on dit le mot bot, moi ça me fait toujours bizarre.
C'est vrai, tu fais bien de le préciser, merci.
Donc, si on s'aperçoit que ce sont des comptes qui ont été créés automatiquement pour déverser des flots d'injures, on bloque tous les comptes qui sont liés à un même numéro de carte bancaire. Donc c'est, me semble-t-il, une barrière à l'entrée supplémentaire. C'est pas très difficile de sauter par-dessus, mais tout de même. Donc je pense que c'est un moyen de filtrage supplémentaire assez technique. Je pense que c'est ça, au fait, qui montre le fond du problème dans la gestion de ce que fait X aujourd'hui, sous l'égide d'Elon Musk, c'est qu'ils ne gèrent pas le contenu, ils veulent trouver des moyens automatiques pour faire des blocages. Et on s'aperçoit que la modération ne peut pas se faire de manière automatique complètement, c'est pas possible. Et donc il faut du monde pour faire ça. Donc il faut payer des gens, et comme le chiffre d'affaires a déjà baissé, eh ben, il y a un effet ciseau qu'il n'est pas plus nécessaire de décrire plus longtemps.
Ben oui.
L'effet grappe dont parle Fabrice ne jouera pas, à mon avis. J'ai fait de la modération aux temps anciens d'Internet sur du chat chez des Chouanadou, pour pas le nommer. Et on avait un certain nombre de petits rigolos qui masquaient leur adresse IP et qui se connectaient via des proxys. Et au bout d'un moment, on en avait... Et donc, ils étaient sur plusieurs pseudos à la fois. C'était le même... On n'a rien inventé, hein. C'était le même souci. Et donc, à la fin des faits, on finissait par bannir l'adresse IP au niveau du troisième groupe de chiffres, puisqu'à l'époque, on avait les 256, 256, 256, 256. On bannissait à hauteur du troisième 256. Et là, on voyait tous les faux pseudos qui tombaient comme si on avait donné un coup de pied dans un poirier dont les poires étaient mûres. Là, c'est ce qui va se passer, mais dans les 10 minutes, avec un processus automatisé, on va retrouver les mêmes avec une carte bleue différente. À mon avis, c'est ce qu'on avait dit aussi sur une autre quotidienne, c'est que on fait de l'affichage auprès de la Commission européenne en disant, vous voyez, on essaie de faire quelque chose, c'est pas notre faute si ça ne marche pas, on est sur l'obligation de moyens et on n'a pas trouvé encore la solution, mais rassurez-vous, on cherche et on gagne du temps comme ça.
Ouais, alors la lettre de Thierry Breton date du 10 octobre, donc il y a 10 jours. Il donnait à Elon Musk 24 heures pour répondre, hein, donc je n'ai pas vu de suite à cette lettre, si ce n'est cette menace, rumeur de menace d'interdire l'ex-Twitter en Europe. Il y a un réseau qui a déjà fait ça, un nouveau réseau qui, à peine lancé, a dit bah, finalement l'Europe ce sera pour plus tard peut-être. C'est Threads, Fabrice, hein, le réseau de Meta qui se veut être le concurrent de X, ex-Twitter. Et c'est exactement la situation dans laquelle il est. Alors c'est US et UK seulement, je crois, pour l'instant, mais pas en Europe, pour cette raison du DSA, justement.
Alors, je sais pas s'ils l'ont dit officiellement que c'était pour cette raison-là. Mais en même temps...
Ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore prêts pour le marché européen, je crois.
Voilà. Alors, en même temps, quand tu lances un réseau, même quand tu t'appelles Meta et que tu lances un nouveau réseau qui potentiellement s'adresse à des millions, voire des milliards de gens, c'est pas anodin. Facebook, Meta, ils sont très très doués pour gérer des milliards de gens qui se connectent, mais tout de même, Donc il y a aussi ça qui est difficile, mais visiblement ils se sont dit donc la situation n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont pas lancé le réseau en Europe, donc ils n'ont pas été confrontés à ça et donc on ne peut plus y aller en Europe. Mais cela dit, c'est intéressant parce que ça donne aussi du grain à moudre au potentiel départ de Twitter d'Europe, c'est que comme Threads n'est pas disponible en Europe et donc dans d'autres pays du monde, bah, finalement il a du mal à prendre beaucoup d'essor. Et que les 100 millions de comptes qui ont été ouverts en une semaine quand il a été annoncé, c'était énorme, c'était bien orchestré et c'était aussi bien fait de la part de Meta parce qu'il suffisait d'avoir un compte Instagram pour pouvoir avoir un compte Threads. Donc il y a plein de gens qui ont entendu parler de ça, ils ont activé ça et ensuite ils n'y sont jamais retournés. Donc d'après ce que j'entends dans des podcasts américains que j'écoute par exemple, l'utilisation de Threads ne décolle pas. Ben, les gens ne l'ouvrent jamais. Voilà. Donc c'est pour faire un réseau de grande taille mondiale, il faut être présent partout dans le monde. Donc ça normalement ça souligne le fait que Twitter ne partira pas d'Europe.
Et donc pour Twitter, le fait d'éventuellement quitter l'Europe, non seulement il se priverait de dizaines de millions d'utilisateurs actuels, mais en plus il perdrait de cette puissance dans le reste du monde.
Bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et déjà, sans compter les annonceurs qui ont déjà du mal à rejoindre Twitter et qui pourraient se dire bah du coup on va encore perdre un peu de d'audience, on va quitter.
Ouais, voilà, ça fera aussi baisser les tarifs du coup.
Ça fait boule de neige. Hein. C'est un effet, c'est l'effet qu'on appelle les effets d'extériorité des réseaux, je crois que ça s'appelle comme ça, celui qui m'a expliqué ça, j'espère qu'il me pardonnera s'il nous écoute, qualifier de boule de neige. Alors il y a la boule de neige, c'est quand un réseau commence à être utilisé par plein de gens, bah du coup plus il y a de gens, plus il y a de gens. C'est ce qu'on disait de Facebook il y a longtemps et qui est peut-être encore vrai. Pourquoi tout le monde est sur Facebook? Parce que tout le monde est sur Facebook.
C'est vrai.
Mais l'externalité des réseaux, c'est qu'aussi à un moment on s'aperçoit. Lorsqu'un réseau, donc réseau social dans ce cas-là, se pète la gueule, il y a des signes avant-coureurs qui le nombre d'abonnés, d'utilisateurs est toujours le même, mais les signes avant-coureurs de la chute sont visibles un an avant ou plus. Et là, c'est peut-être qu'on est en train de vivre avec Twitter, donc c'est l'effet boule de neige à l'envers, c'est-à-dire que en fait, on s'en va.
J'ai une dernière question à vous poser à propos de X, ex Twitter. Est-ce que vous pensez que l'expérimentation qui a commencé aux Philippines et en Nouvelle-Zélande va être étendue progressivement au reste du monde? Et donc, est-ce que vous pensez que Twitter va devenir un réseau payant, même si le montant est symbolique? Ça change quand même tout le modèle économique, non?
Il est minime. Ils n'ont pas essayé n'importe où dans la mesure où les Philippines... ou la Nouvelle-Zélande sont pas réputés pour abriter le plus grand nombre de fermatrolls. Donc ils jouent un peu sur le velours, ils vont voir si ça marche avec monsieur ou madame Michu. À mon avis, vu la difficulté d'obtenir du financement et de faire sortir leur carte bleue aux gens, à mon avis, c'est pas gagné. Et cet effet boule de neige à rebours que décrivait Fabrice, moi j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. On a le même pour les restaurants. Hein. C'est peut-être le signe initial de ce type de détricotage de la pelote d'abonnés d'Apple. C'est peut-être l'élément déclenchant. S'ils le mettent en place.
En fait, je pense qu'il y a, pour Twitter, même si sur le principe, je m'en étais ouvert dans le bonus du numéro 156, justement un abonnement minime à $1 par an pour faire une sorte de premier filtrage, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais en ce qui concerne Twitter, je pense qu'il est trop tard, en fait. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement demander à des utilisateurs contents d'un service de payer tout court, ou de payer un peu plus cher quand les gens sont contents. Là, quand on s'adresse à une population qui, semble-t-il, est de plus en plus mécontente ou déjà partie, le fait de mettre une barrière à l'entrée supplémentaire, c'est-à-dire que non seulement on n'a plus envie d'y aller, ou moins pour une certaine partie des utilisateurs, et où on est déjà parti, bah, du coup, je pense que c'est déjà trop tard, en fait.
Ben oui. Merci à tous les deux. Bon anniversaire à Elon Musk à la tête de Twitter. On va voir comment ça va se passer. On parle de Twitter, ex-Twitter, X, potentiellement tout payant. Et ben, moi, j'ai un mot à vous dire à propos de podcast tout gratuit. Si vous appréciez notre travail, notamment sur iWeek, la semaine Apple, et bien la page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. Pour vous remercier de votre soutien, vous y trouverez chaque épisode en avant-première, en version audio et vidéo et sans pub, ainsi que les bonus hebdo exclusifs. Alors, ils sont un peu en retard, c'est de ma faute, ils arrivent. Encore une fois, un grand merci à chacune et chacun d'entre vous, même si on a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour développer iWeek et vous proposer plus de contenu. Dans un instant, nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Les coups de cœur de la semaine, coups de cœur ou carton, c'est selon. Gilles, je crois que tu passes ton tour cette semaine. Tu es trop occupé à faire des blagues sur Linda Yaccarino. On ne les partagera pas.
On la garde
pas.
Pour les bonus.
Voilà, on la garde pour les bonus ou le bêtisier, voire même le bêtisier, je te propose. Je me tourne donc vers Fabrice. Fabrice, tu as les deux?
J'ai les deux. Je voulais faire un orange plus et un orange moins. Ça m'est arrivé à quelques jours d'intervalle. Pour vous raconter ma petite vie.
Un carton orange plus et un carton orange moins. Un carton. Ou tu veux parler d'orange?
Je veux parler de l'opérateur mobile internet.
Ah, donc tu parles de l'opérateur, d'accord.
Ah oui, absolument.
C'est un carton orange pour orange?
C'est un carton, non. Alors, t'as raison, c'était pas clair. Donc,
bah oui, c'est pas clair.
C'est vrai. Je reprends. C'était pour un coup de cœur pour Orange et un carton rouge pour Orange.
Ah,
les deux,
très bien. Très
parce
bien.
Que j'ai deux petites histoires et donc je reprends.
Mais oui.
Pour vous raconter ma petite vie, moi, j'utilise un contrat Orange Pro. Pour mes besoins, et donc j'ai eu un souci de connexion dimanche, quand on est à un contrat pro, bah, on peut appeler Orange le dimanche, on a quelqu'un au bout du fil le dimanche, qui m'a dépatouillé mon affaire, et c'était reparti en 10 minutes, voilà, et j'étais très content d'avoir mon abonnement pro. Qui, soit dit en passant, ne coûte pas forcément plus cher que justement l'abonnement d'une cliente que j'ai accompagnée en boutique parce qu'elle a un abonnement Orange, comment ça s'appelle, couplé, donc pour l'internet et pour son mobile, elle paye presque 80€ par mois pour ça. Et alors, je suis allé l'accompagner parce qu'elle avait un iPhone 8 qu'elle voulait changer. Je me suis dit, avec l'abonnement qu'elle a, elle doit avoir des points. Ça doit forcément être un truc avec engagement, avec des points. Donc, on va en boutique près de chez elle et on s'adresse à la personne qui nous reçoit. Et elle dit, madame machin, qu'est-ce qu'elle peut faire pour changer son téléphone? Ah, bah rien. On peut rien faire. Il n'y a pas de points engrangés avec cet abonnement qui coûte 80€ par mois. Ah bon? Alors, j'étais un peu surpris. Alors, je lui dis, mais enfin, écoutez, alors, très bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser l'abonnement? Et là, la personne qui nous a reçus m'a posé la question suivante. Ça dépend, quelle est la surface de son appartement? Alors, j'ai pas tout compris, parce que... Et du coup, elle affiche sur son écran trois offres. Donc, il y a l'offre pour la fibre, donc l'offre à 1 gigabit avec la Livebox 7, l'offre, je ne sais plus exactement, mais c'était quand même ça, hein. On parle de gigabit à 700 mégabits avec la Livebox 6 et 500 mégabits avec la Livebox 5. Donc, on ne parle que de débit. Et là, la personne en question me dit, bah oui, comprenez, parce que si c'est un peu grand, avec le débit plus faible, le Wi-Fi sera moins bon.
Ouf.
Voilà. Donc, ça fait là, mal. là ça fait mal parce que donc soit c'est les gens qu'on met en boutique sont donc pas formés du tout et ont aucune notion technique, soit c'est ce qu'on leur dit de dire aux gens. Dans les deux cas, c'est affreux.
Ouais. Voilà.
Donc, je peux
Ben oui, s'il te plaît, parce que peut-être que tu pourras m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça, quoi.
Ouais. Parce que dans les nouvelles box, on n'a pas le même type de Wi-Fi dessus. On a du Wi-Fi 5, du 6, voire du Wi-Fi 6E, pour les nouvelles, toutes nouvelles. Et c'est aussi pour ça qu'ils le marketent aussi cher.
Oui, mais
j'entends bien, mais la plus question on monte en Wi-Fi, ouais, moins ouais. Ça va loin. Parce que justement, le Wi-Fi 6 et 6E, ça utilise des bandes de fréquence à 5 GHz qui vont moins loin que le 2,4 GHz du Wi-Fi classique.
Et oui, comme Lionel, Paris, vous l'avez très bien expliqué il y a quelques semaines dans iWeek, la semaine Apple.
Exactement. Mais dire aux gens que c'est parce que le débit est plus faible, on va aller moins loin, c'est un scandale, quoi. Donc, on a quitté la boutique. Avant que je sois grossier avec la dame. Pardon, je ne voulais pas dire que c'était une dame, non. Mais c'était une dame. Et on a été faire autre chose. Et je pense qu'on va quitter, on va changer ça. Mais je trouve ça totalement
pays,
incroyable. Ouais. Bah non, mais là, c'est vraiment c'est scandaleux, quoi. Ouais. Soit c'est parce que commercialement, ils veulent vendre des choses comme ça, soit les gens ne sont pas formés, ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment dommage. Voilà ce que je voulais raconter comme mes deux petites histoires, Orange Plus et Orange Moins.
Bon,
moi, je suis chez Orange aussi. J'ai toujours eu des gens extrêmement compétents, voire qui m'ont aidé à baisser le forfait téléphone.
Ça coûte
pour
moins
le coup.
Cher,
ouais.
Oui. Bon, bah, c'est décidé, je déménage à Pau.
Ouais, c'est ça.
Non, c'était au téléphone, c'était le support téléphonique.
D'accord.
Il y a peut-être une question de pièces ou d'habitants à ce moment-là. Quels sont vos usages? Ouais. Et c'est normalement comme ça qu'est présenté que était dans le temps, il n'y a pas si longtemps, présenté les offres d'Orange au niveau des usages.
Bon, en tout cas, je remarque que tu n'as même pas trouvé un carton Orange pour Orange. C'est quand même... ça aurait été la moindre des choses, mon cher Fabrice.
Je vais y travailler, mon capitaine. Allez, à toi.
Bon, moi, j'ai un petit carton jaune à Netflix qui augmente donc ses tarifs de 2 euros en France. Alors, il y a 4 forfaits. Donc, c'est le moins cher qui passe de 8 à 10 euros, si je ne me trompe pas. Et puis, le plus cher qui passe de 18 à 20. Donc ça fait mal pour ceux qui sont abonnés, bah comme moi. Bah la bonne nouvelle, c'est que l'écart avec Apple TV+ augmente, et donc potentiellement ça augmente l'attractivité d'Apple TV+, c'est plutôt une bonne chose. D'autant que j'ai l'impression que le tarif d'Apple TV+ est en promo en ce moment, parce que je le vois à 6,99 par mois, ce qui me semble vraiment pas cher. Est-ce que c'est le souvenir que vous avez?
Il me semble que c'est le prix habituel. Hein. Ça a commencé à 5,99 le prix d'Apple TV+. Ouais. Il a été augmenté de 2 euros il y a 2 ans maintenant.
D'accord. Bah, c'est vraiment pas cher.
Bah, c'est pas cher. Il est possible que ça augmente. Au début, c'était voilà, difficile
c'est
de
ça
faire
qui
un
me fait
service
peur.
Plus cher parce qu'il n'y avait pas de,
pas grand chose.
Il y avait pas de catalogue. Ouais. Mais maintenant qu'il y a un meilleur catalogue, après ils ont beau jeu de continuer à garder cet écart pour que justement attirer un peu plus de monde. Mes excuses,
ben oui.
Mais du coup il y a et puis on a vu aussi que l'accord avec Canal+ avait fait beaucoup de bien à Apple TV+ pour faire connaître les contenus.
C'est vrai.
Donc, abonnez-vous à Apple TV+.
Ben oui.
Il y a plein de choses.
Si je peux finir mon carton, donc carton jaune à Netflix, plutôt une bonne chose pour Apple TV+, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même un mouvement d'inflation globale dans le milieu du streaming, parce que Disney+ a augmenté, enfin ils ont tous augmenté leurs tarifs, là, quasiment tous ont augmenté leurs tarifs ces dernières semaines. J'attends de voir si Apple TV+ va le faire aussi. En tout cas, en attendant, l'écart se creuse et c'est plutôt une bonne chose. J'ai un autre coup de cœur à vous présenter. Là, en fait, c'est un coup de cœur qui est branché en ce moment, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui, je peux vous le montrer. Vous voyez, c'est un tout petit hub, en fait. Moi, j'ai un MacBook Pro 14 pouces qui a donc 3 ports USB-C, et comme je suis toujours en train de faire du montage, j'ai plein de disques durs de tous les côtés, donc mes 3 ports ne me suffisent pas. Et je cherchais un hub qui me permette de brancher davantage de ports USB. Et je ne voulais que de l'USB sur un hub. Et donc j'ai trouvé ce petit hub de chez Celor. Voilà, Celor, S-E-L-O-R-E. Que j'ai
payé. On ne voit pas, essayez de le placer un peu plus sur ta gauche. Encore plus à gauche, encore plus à gauche, encore plus. Voilà.
Ah ouais, nous y sommes. Ouh, il est tout fin. Vous voyez, il est tout fin. Ouais. Je ne peux pas le montrer plus parce que tout est branché. Mais
Vas-y, tire fort.
Et il est notamment branché sur mon Mac. Mais donc, y a, c'est bête, hein. Il y a deux USB-C, deux USB-A. Et c'est super pratique. Je l'ai trouvé pour 20 euros. Il est très fin, tout petit. Et voilà, je trouve ça très très bien. Ils ont plein de hubs USB-C, enfin qui se branchent en USB-C. Et notamment celui-là, ben voilà, tout USB, je trouve ça top. C'est tout bête, mais je vous le conseille si vous avez le même besoin que moi. Et donc, voilà, j'occupe un des trois ports USB-C, mais j'en récupère deux sur le hub. Donc en fait, je m'en trouve avec quatre ports USB-C, ce qui est vraiment le truc pour moi idéal. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 159 d'iWeek, la semaine Apple. Si vous aimez le rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à la quotidienne iWeek sur toutes les plateformes. Et c'est gratuit aussi. Merci les amis. C'était chouette de vous retrouver aujourd'hui. Gilles Dounès, salut Gilles.
Salut Benjamin. Salut Fabrice. Et puis on a hâte de retrouver François et Élie.
Mais oui. On espère la semaine prochaine, n'est-ce pas Fabrice Neumann ?
Ben oui, bien sûr qu'on espère, absolument. Salut à tous.
Salut à tous. Je vous rappelle que cet épisode, pour la première fois, a été enregistré dans les conditions du direct, comme lors de la couverture d'une keynote, sans montage ou quasiment pas, et avec une post-production minimaliste. Alors, d'avance, merci pour votre compréhension, pour vos retours constructifs sur les réseaux. @iWeek News sur X, ex Twitter, et aussi sur Mastodon. L'adresse, tu t'en souviens, Fabrice ?
iWeek News @ mastodon.world.
Et partout, on compte sur vous pour utiliser le hashtag iWeekLSA. Et donc, merci pour votre compréhension pour les éventuels petits aléas. N'oubliez pas la quotidienne iWeek du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et puis patreon.com/iWeek. Rejoindre la communauté, c'est aussi nous soutenir et on a besoin de vous. Bah, à très vite pour la suite, les copains. Et en tout cas, à la semaine prochaine et dès lundi avec la quotidienne iWeek. Salut à tous. Bye bye.
Salut à tous. Bye bye.
Bye bye.